littéraire, aujourd'hui vrai faux écrivain, Lutz Passmann, Benjamin Jordan. Ce matin, autour de la table, David Ruffel, qui publie dans la collection Kaouid, qu'il co-dirige aux éditions Verdier, deux volumes signés Lutz Passmann, un ensemble d'entre vous intitulé Avec les moines soldats et un ensemble de haïkus. On pourrait même parler d'un récit par haïku titré Haïku de prison. Jean-Benoît Puech, qui est enseignant à Orléans et qui a co-dirigé avec Yves Savigny la publication d'un volume collectif, premier numéro des cahiers Benjamin Jordan, intitulé Benjamin Jordan, une vie littéraire, qui paraît aux éditions Champvallon. Jean-Pierre Morel, qui a été professeur de littérature comparée à Paris 3 et qui est quelquefois critique au mardi, il a lu les cahiers Benjamin Jordan en particulier. Et puis Jean-Baptiste Aran, qui est quelquefois critique au mardi, avec qui on parlera surtout des deux volumes de Lutz Passmann. Extrait du quatuor numéro 1 pour cordes de Denis Fragerman. Denis Fragerman, qui est l'auteur de Suite Volodine, qu'on va entendre tout à l'heure. Et on a passé cet extrait parce que l'éditeur nous prétend qu'on entend la voix de Volodine dans le quatuor numéro 1 pour cordes. On a écouté plusieurs fois, enfin bon, voilà, dans lequel on entend, paraît-il, la voix de Volodine. Donc on commence par Lutz Passmann. En fait, ce sont des textes qu'on pourrait lire pour eux-mêmes et en eux-mêmes, du dire qu'on pourrait lire innocemment ou naïvement sans connaître leur provenance, qui sont, selon l'esthétique de Volodine, non, j'en suis pas encore à Volodine, qui sont très maîtrisés, très, très, très virtuoses, très efficaces aussi dans leur construction. Et puis, on peut les lire aussi comme l'une des manifestations de la littérature hétéronymique, constituée, organisée, construite depuis longtemps par Antoine Volodine, dont le nom lui-même est d'ailleurs déjà un pseudonyme. Cette littérature hétéronymique, Volodine lui a donné un nom. Il s'agit d'ailleurs un nom dont il a dit à plusieurs reprises que c'était vide de sens, de la littérature post-exotique. Et cette littérature post-exotique est supposée être écrite par des gens qui vivent en prison et qui explique leur esthétique comme ça, noire, leur décor, et en particulier la vie de ce Lutz Passmann en prison, et va expliquer beaucoup de l'esthétique de ces textes. Mais en tout cas, comment dire, il faut lire ce texte comme une des manifestations de cette, je ne sais pas comment il faut dire, communauté d'écrivains.
Oui, absolument.
David Ruffel. Ah non, c'est pas David.
Si, c'est David. C'est David. Effectivement, Lutz Passmann appartient à cette communauté fictive d'écrivains post-exotiques qu'a imaginé Antoine Volodine. Il est d'ailleurs le personnage principal d'un livre qui est paru il y a 10 ans, Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, Lutz Passmann. Et il était l'un des co-signataires. Oui. l'un des co-signataires de cet ouvrage. Alors on peut peut-être partir justement de ce livre pour voir toutes les différences qu'il y a, enfin l'étape supplémentaire qui est manifestée ici avec la publication de ces deux livres sous la signature de Sebastian. Dans le post-exotisme, on dit le son et le son, je ne sais pas si vous vous souvenez, le titre, sous la couverture, le titre était signé, le livre était signé Antoine Volodine. Lorsqu'on ouvrait le livre, on retrouvait sur la page de titre le titre, le post-exotisme, on dit le son et le son 11, et là avec une liste d'auteurs dont faisait partie le premier était Lutz Bassmann, le dernier était Antoine Volodine. Donc manifestant par là que ce livre était aussi l'émanation de cette production post-exotique. Lutz Bassmann donc est emprisonné comme les autres écrivains, il est emprisonné depuis 1990, il est dans un état physique et mental totalement délabré, ce qui ne l'empêche pas de produire ces livres-là. La nouveauté aujourd'hui, c'est que vous voyez le nom Lutz Bassmann, au lieu d'être à l'intérieur du livre, c'est-à-dire dans le monde de la fiction, passe en tant que signature sur la couverture et donc dans le monde du réel. Donc pour le post-exotisme, ce qu'il s'agit de faire ici, c'est de marquer, comme je le disais, une nouvelle étape, c'est-à-dire de passer d'une hétéronymie qui était fictive, finalement, à une hétéronymie qui est réelle. Alors, attention, hétéronymie réelle, c'est-à-dire que cette fois, elle s'affirme dans le champ de la publication.
Je voulais juste dire, avant d'en venir à ces deux livres, qu'il y a très longtemps que dans l'œuvre de Volodine, il est question d'hétéronymes, et dans ses œuvres écrites par des hétéronymes ou écrites ou signées par Volodine, il y a très longtemps qu'il est question de genres littéraires très particuliers qui seraient propres à cette littérature de prison avec les chagas, les entrevoûtes, je ne sais plus comment il dit, les romances. Particulier dans ce qui est pour moi le plus grand livre de Volodine, qui est Lisbonne dernière marge, qui était un livre fabuleux, qui avait une architecture absolument extraordinaire, avec des récit dans le récit, et il y avait déjà des chagas, des entrevoûtes et des romances qui circulaient entre ces gens qui n'étaient pas à l'époque d'ailleurs des ex-terroristes, mais des terroristes repentis. Enfin bon, l'univers repentis était à la fois proche et repenti peut-être.
Non, certainement pas même.
Non, c'est évident. Mais ça fait très très longtemps et le post-exotisme a contribué à donner une sorte de cohérence comme ça, de faire au fond comme si Volodine avait réfléchi depuis très longtemps à cette cohérence hétéronymique. Oui. Et qui lui a été rendu au fond par ce livre publié qui s'appelle Le post-exotisme.
Oui, mais si vous voulez, c'était encore une fois thématique jusqu'à maintenant. Alors, quand je vous dis ça en même temps, c'est un petit peu faux. Puisque depuis 1999, sont publiés à l'École des loisirs, en littérature jeunesse, des livres sous les noms d'Eli Kronauer et Manuela Drager. Il y a 13 livres qui ont été publiés. Donc en fait, l'hétéronymie, quand je parle d'hétéronymie réelle, c'est-à-dire avec disparition du nom d'Antoine Volodine au profit d'autres noms, ça existait, mais ça existait de manière confidentielle, puisque littérature jeunesse, c'était simplement connu de quelques critiques, quelques journalistes et quelques chercheurs. Or, avec Lutz Bassmann, dans une maison d'édition de littérature générale, la volonté ici, c'est de mettre au grand jour cette pratique de l'hétéronymie, encore une fois, réelle. Et lorsqu'on ouvre les deux livres en question, il n'y a plus, comme d'habitude, du même auteur et la liste des livres d'Antoine Volodine, mais il y a indiqué « Voix du post-exotisme ». Et là, on trouve les quatre noms, Lutz Bassmann, Manuela Drager, Eli Kronauer, Antoine Volodine, avec à chaque fois les différents livres de chacun de ces hétéronymes. Alors, si vous voulez, ce n'est pas du tout un gadget, c'est que il faut, je crois...
C'est que vous appelez le passage de l'hétéronymie fictive à l'hétéronymie réelle.
C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on peut tout à fait considérer que l'œuvre post-exotique va changer dans sa production et dans sa réception, puisque ça ne va plus être l'œuvre d'un auteur, mais l'œuvre d'une constellation de noms. Non plus l'œuvre d'un seul nom, mais d'une constellation de signatures. Il va y avoir certainement d'autres livres de Lutz Bassmann, il va y avoir même des livres peut-être de Manuela Drager, mais non plus dans la littérature jeunesse, mais dans la littérature générale. C'est-à-dire que cette œuvre ne va plus pouvoir être reçue comme elle a été exactement reçue jusqu'à maintenant. Vous voyez
Ça résout de façon intéressante, je trouve, la question de l'hétéronymie. C'est-à-dire que je me disais, puisqu'il revendique un collectif qu'il appelle une communauté, au fond, il n'y a plus de vrai et de faux. Il n'y a plus d'œuvres fictives, etc. Il n'y a plus d'écrivains fictifs. Il y a... Non, c'est vrai, ça résout de façon très très intéressante la question de l'hétéronomie, je trouve.
Bon, alors disons que après les, là aussi, c'est Volodine a toujours aimé adopter des positions qui sont des positions intenables, qui sont des positions qui sont là pour troubler un petit peu le lecteur. Je précise d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de la part de Volodine ni de notre part à nos auditeurs une quelconque volonté de mystère sur le vrai écrivain des textes de Lutz Massmann, ni de volonté de mystification du lectorat. C'est pas une affaire de dissimulation d'identité. Hein. Tout a été très
il y a,
très.
Il y a quand même un site littéraire.
Oui, bien sûr, mais. Alors ça, c'est ça participe de la volonté de créer cet écrivain qui est Lutz Bassmann. Le nom Lutz Bassmann ne renvoie pas à un écrivain réel, mais à un écrivain fictif. Et là, il n'y a jamais eu de tentative de mystification, si vous voulez. Hein. Mmh. Tout a été très clair. Volodine s'est même exprimé
dans une page dans Wikipédia.
Oui, alors ça, voilà. Alors ça participe en même temps de la construction de ce personnage fictif. C'est pour ça que c'est un hétéronyme et pas un pseudonyme.
D'accord. Hein,
il s'agit de faire une expérience de l'altérité quand même dans l'écriture de Volodine à ce niveau-là. Hein. Bon.
Jean-Pierre Morel.
Je m'intéresserai plutôt qu'à la question de l'hétéronomie qui vient d'être excellemment éclairée, à la question du post-exotisme, en ayant un peu la faiblesse de me demander ce que ça raconte et ce que ça évoque. Et ce qui m'intéressait dans ce cycle de nouvelles tout particulièrement, ce sont des termes comme organisation, agent, contact, procédure. Et en suivant un petit peu la trame des intrigues parfois redoublées que nous présente donc cet écrivain fictif, Lutz Bassmann, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a à travers ces textes, une sorte de mise en perspective historique qui s'effectuerait par rapport à une tradition beaucoup plus longue. Moi, je donnerais, quitte à quitter pour un moment la question de l'hétéronomie, je donnerais comme point de repère cet ensemble, ce cycle de récits qui a été construit par Charles Plinier en 1937, qui s'appelle Faux Passeport, et qui est une histoire d'agent du Comintern. Et je verrai un petit peu plus loin, autour des années 79, comme second point de repère, le livre de Danny Lokish, Un tombeau pour Boris Davidovitch. Sept chapitres d'une même histoire, où l'on voit comment la perspective militante et déjà malheureuse de Plisnier se retourne au contact de la réalité de ce qu'a été la vie des militants, et la condition des militants dans l'URSS historique. Et alors ici, on aurait des histoires qui seraient apparentées, puisque, pour une part, ces personnages qui sont situés à la fin de l'histoire dans des décors frappés d'élabrement, de décomposition et de solitude, tiennent encore par un certain nombre de liens à une idéologie internationaliste et à des pratiques à la fois politiques et policières qui très souvent se retournent contre eux.
Il y a une nouvelle qui s'appelle Un univers prolétarien de secours,
oui,
ça
dans laquelle on s'aperçoit que les deux envoyés en mission, dont la mission n'est plus fixée tant par une organisation que par les rêves et les espérances des codétenus enfermés dans les ténèbres, lorsqu'ils émergent dans cet univers prolétarien, c'est pas du tout un univers de secours, c'est au contraire un univers où le personnage qui s'appelle Monge perd complètement la mémoire des instants qu'il a traversés auparavant, on n'arrive pas à raccorder son actualité à son passé immédiat et se trouve pris dans une épouvantable machination montée par la sécurité militaire.
Jean-Louis Lapièche, simplement pour revenir brièvement à l'histoire de l'hétéronymie, est-ce qu'elle vous paraît originale par rapport à cette question qui vous intéresse? Est-ce qu'elle vous paraît
originale,
une solution nouvelle ou bien déjà pratiquée?
Non, enfin, il y a une histoire de cette pratique
qui
remonte évidemment à. Comme vient de le dire Jean-Pierre, je pense immédiatement évidemment à toute une collection, toute une bibliothèque du 19e siècle à nos jours, et peut-être même avant, mais de cette activité. Mm-hmm. Alors là, ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir les deux les deux approches, l'une qui met davantage l'accent sur la construction, disons formelle pour aller vite, et l'autre sur le contenu des vies de Volodymyr. Et pour moi, comment dirais-je, l'hétéronymie est une pratique, donc, il y a toute une tradition qui consiste, comme David l'a très très bien décrit, à investir ce qu'on appelait, quand j'étais enfant, le paratexte. C'est-à-dire tout ce qui... Je suis dans une perspective historique.
D'accord, d'accord.
Tout ce qui est censé renvoyer à du réel. Donc il y a effectivement une espèce de remontée du contenu dont parlait Jean-Pierre vers le paratexte, vers du texte, vers tout ce qui est censé accompagner le texte, et d'investissement de tout ce qui est censé accompagner le texte, parce que ce qui est censé accompagner le texte aurait davantage de quotient de réalité, en somme. Et donc il y aurait là une prise de réel plus forte. Mais ce à quoi je suis le plus sensible en réalité, aussi bien donc dans ces pratiques qui est aussi la mienne, que dans celle de tous les autres écrivains qui l'ont employé depuis, on peut en citer 36, mais enfin celui dont je me sens plus proche, c'est le Larbeau de Barnabus. Mais on peut essayer de penser ce que cette pratique soit révèle du contenu, soit dissimule du contenu, et quand je pense à dissimule, je devrais dire même plutôt fait diversion. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne en tout cas, cette pratique, c'est une manière de détourner l'attention de quelque chose qui se passe ailleurs. Et ce que pointe justement alors Jean-Pierre, à savoir quelque chose qui est beaucoup plus d'ordre thématique, disons, que d'ordre formel. Tout se passant comme si la forme était là pour détourner l'attention d'un contenu. Et si je peux me permettre d'anticiper sur l'évocation de mon propre livre,
oui.
En tout cas, en ce qui me concerne, la pratique hétéronymique est là pour faire diversion.
D'accord.
Oui, non, je voulais revenir un instant. C'est très important d'entrer dans les livres proprement dit.
Oui, bien sûr.
C'est évident. Simplement pour. Alors, moi, je ne suis pas un historien de la pratique de la pseudonymie ou de l'hétéronymie, donc, mais il me semble que ce qui fait la très grande originalité du post-exotisme, c'est qu'on peut considérer le post-exotisme comme une fiction d'auteur. Simplement, habituellement, les auteurs construisent une fiction dans laquelle ils inventent un double, voire plusieurs doubles. C'est-à-dire, c'est un rapport à la question de l'individu, à un autre individu, ou à plusieurs individus. Ici, ce qui me semble très singulier, c'est que la pratique de la fiction d'auteur renvoie immédiatement à un collectif. Ce collectif, c'est un multiple en réalité. Donc là, on donne quelques noms, on en donne trois noms, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. C'est-à-dire que Volodine ne s'est pas inventé un double ou quatre hétéronymes, il s'est inventé tout de suite un collectif. Donc ça porte un sens, ça a un sens évidemment politique.
Bon, absolument.
Bon, immédiatement. Je crois que c'est ça qui fait. Alors je ne sais pas si ça existe.
C'est un collectif qui pratique le pseudonyme. C'est un collectif qui refuse la signature au fond, donc c'est aussi pour qui aime les pseudonymes, qui change les signatures, etc., et qui refuse l'identité assignée de l'écrivain.
C'est-à-dire qu'il place l'acte de création littéraire immédiatement en prise avec la question du collectif, et non pas en prise avec la question de l'expression individuelle, subjective, narcissique, etc.
On peut dire un mot justement de Bassman, qui a peut-être une identité particulière, puisque il est l'un de ceux qui est en prison, il a en tout cas sur Wikipédia une histoire particulière. Vous disiez, il est emprisonné depuis 1990, etc. Donc il a un décor, des thématiques, etc. particuliers.
Alors en fait, on considère qu'il est né dans les années 50 en République soviétique de Lettonie. Bon, après, il a les caractéristiques qu'ont les autres écrivains post-exotiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas chez Volodine une singularisation complète et définitive des hétéronymes. Ils sont tous interchangeables, précisément parce qu'avant tout, c'est la question du collectif, de la commune, du peuple post-exotique. Donc, il n'est pas nécessaire de les différencier véritablement les uns des autres.
Jean-Baptiste Parent.
Je ne sais pas si Antoine Volodine, dont vous avez précisé au début que c'était aussi un pseudonyme, donc toutes ces choses sont un peu compliquées. S'il nous écoute, il doit être ravi qu'on prenne au sérieux et tout ça, parce que je pense que c'est aussi un joueur, c'est aussi un jeu. On doit préciser d'ailleurs que avec les moines soldats, la dernière entrevoûte, la septième, et aussi le texte d'un autre écrivain qui est présenté dans un texte précédent, enfin tout ça est très compliqué et aussi très drôle. Je pense que d'abord s'il n'y avait pas le nom d'auteur, les moines soldats, c'est pas comme dans votre quatuor, on entend la voix de Volodine dès la première phrase.
Ça, c'est vrai.
Il ne cherche pas à donner le change par un style ou par un univers différent des autres noms qu'il a utilisé. Oui, parce que c'est un écrivain et puis il fait ce qu'il veut et on reconnaîtra sa voix quoi qu'il écrive, on la reconnaît aussi dans les haïkus. Non, je crois que c'est juste un écrivain qui est un véritable, c'est-à-dire qui a créé un monde qu'il n'a pas créé de toute pièce, puisqu'il nous en fait supporter la responsabilité, puisque c'est le monde, il disait dans les songes de Melvido, c'est à la fin de l'avenir, c'est quand l'avenir sera fini, là où il se situe, eh bien il doit s'y sentir tellement seul qu'il invente d'autres noms, mais je pense qu'il ne faut pas perdre l'idée qu'Antoine, appelons-le Antoine, je ne sais même pas si c'est son vrai prénom, s'amuse. Et il a choisi, en plus, il a choisi un nom qui commence par V pour commencer sa carrière, ce qui lui permet à chaque fois, dans l'ordre alphabétique, de mettre Bassman en premier et de mettre Volodine en dernier.
Donc, on peut commencer, puisque vous disiez avant que le micro ne s'ouvre que c'était le livre que vous aviez préféré par ces haïkus de prison. Ce sont des.
J'ai pas dit que j'avais préféré, mais il m'a épaté.
Ce sont des faux haïkus, c'est-à-dire qui ne respectent pas la tradition de la poésie.
Japonaise,
la métrique japonaise, évidemment, mais c'est très étonnant parce que c'est un récit par haïku.
Quand on demande à Volodine quel post-exotisme et qu'il a droit qu'à une phrase, il dit c'est une littérature étrangère écrite directement en français. Et donc on peut considérer que c'est haïku, peut-être que dans la langue d'origine, d'où il les a traduits, respecter la métrique et c'est que la traduction qu'il ne respecte pas, on ne sait pas. D'ailleurs, il n'y a pas dans la liste des écrivains Maria Soudaïeva, qui est l'auteur de Slogan, qui a paru l'Olivier, je crois.
Oui, c'est ça.
Et dont Antoine Volodine est le traducteur.
Il n'est pas dans les œuvres complètes.
Il n'est pas dans les œuvres complètes, puisqu'il n'en est que le traducteur, et il nie farouchement en être l'auteur, ce qui est peut-être vrai, et ce qui en tout cas son droit. Ces slogans-là étaient aussi, et c'est assez proche des haïkus, c'était une forme courte, répétée 343 fois, c'est-à-dire 7 au cube, parce qu'il s'intéresse aussi beaucoup à toutes ces choses formelles, qu'il ne respecte pas d'ailleurs curieusement dans les haïkus, qui ne sont au nombre que de 505, qui n'est pas divisible par 7, ce qui m'a quand même étonné beaucoup de ce garçon, qui me semble
se relâcher un peu. Il ne pratique plus la contrainte hooligan, en fait. C'est pas des contraintes de ce type. Et donc,
les entrevoûtes avec les moines soldats respectent absolument les règles qu'il s'est fixées lui-même quelques années.
Pas tout à fait. Effectivement, dans le post-exotisme, il donne une règle du genre de l'entrevoûte. Ça serait une paire de nouvelles, hein, dont la deuxième reprendrait simplement un élément de la première sous une forme réduite. À la limite, on peut retrouver ça dans les deux récits identiques, Chrysostome, où il y a à chaque fois un dialogue au bord de mer à la fin. Donc ça, à la limite, ça pourrait correspondre à la définition dans l'entrevoûte du post-exotisme. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le post-exotisme, Volodine s'invente comme ça des contraintes littéraires, mais ça n'a rien à voir avec les contraintes oulipiennes, c'est-à-dire que ce sont des contraintes qu'il dépasse ou qu'il utilise de manière très très souple.
Il donne une autre définition de l'entrevoûte à la fin de son recueil d'entrevoûtes qui est très amusante. Son personnage cherche à s'occuper pendant quelques temps et donc il dit il mit la main sur un petit recueil d'entrevoûtes de Maria Samarkand intitulé Les 20 ans après, 20 V.A.N. Il n'était pas grand lecteur et il n'avait jamais beaucoup apprécié la prose post-exotique, mais parmi les articles proposés, ses entrevoûtes avaient l'avantage de ne pas dépasser 100 pages.
Oui, il y a plusieurs reprises. Le redoublement s'opère et la mise en procès, d'une certaine façon, par ce qu'on pourrait appeler l'auto-ironie du post-exotisme, par exemple. Dans un autre passage que celui que vous venez de citer, un personnage est montré ne goûtant très peu
c'est cette littérature, je cite, « travailler dans l'intention d'effacer tout repère spatial et temporel », ce qu'il fait la plupart du temps. Cependant, il me semble qu'il y a un autre enjeu qui est marqué par plusieurs des nouvelles, c'est qu'on est, comme on l'a rappelé, non seulement à la fin de l'avenir, mais dans une situation où l'histoire ne peut plus être éclairée. Parce qu'il n'y a plus, comme le rappelle une des nouvelles de la fin, il n'y a plus ni de témoignages possibles, ni de travaux d'historiens. Et alors, il y a toute une tension qu'on est habitué à cultiver entre d'une part la fiction, d'autre part le témoignage et d'autre part l'histoire, qui ici se défait, ou du moins est placée dans une situation expérimentale limite, où ces liens qui nous paraissent presque organiques après deux siècles entre le témoignage, l'histoire et la fiction seraient en train de se dénouer. C'est ça aussi, me semble-t-il, que désigne le post exotisme, comme si au 19e et au 20e siècle notre grand exotisme avait été l'histoire, et que maintenant, comme le dit un des personnages, c'est fini la découverte, c'est fini les paysages. Ces paysages, c'était l'histoire, et il était en train de s'effacer.
On pourrait dire ces choses-là aussi à propos du rapport compliqué qu'il a avec le réalisme, au fond, parce que cette insistance sur les rêves et le fait d'être dans le rêve de quelqu'un, etc., c'est aussi un réalisme et une sorte de réel qui s'effondre, etc. Il me semble, du point de vue de l'esthétique littéraire, on peut faire la même analyse.
Oui, on pourrait rapprocher les deux discours que Jean-Pierre vous avez tenus pour, en essayant de voir comment, au niveau finalement individuel, le personnage même de l'auteur, lui aussi, s'est effondré, s'est morcelé, s'est dispersé. Et à ce moment-là, on pourrait penser que l'originalité de Volodin, c'est non pas d'avoir inventé toute une petite population de personnages, parce que Kierkegaard l'a fait en lui, Psoa également. Mais là, on aurait un équivalent dans cette multiplication, dans cet éclatement plutôt, disons, de la singularité, de ce qui se passe au niveau collectif dans l'effondrement de l'histoire. La construction formelle serait une espèce d'équivalent d'un contenu historique, disons, idéologique et idéologico-historique.
Oui, pour reprendre un terme qui est à la fois chez Blanchot et chez Kafka, d'abord chez Kafka et ensuite chez Blanchot, on serait dans la situation de l'absence de mandat, de l'absence de mission, de commanditaire.
Pourtant, précisément, ce sont des récits de mission. Ce sont presque des récits d'aventure. En quelque sorte, nos moines soldats, qui sont les personnages de ces sept histoires, puisqu'en fait, avec les moines soldats, c'est un recueil de sept entrevues, de sept nouvelles. Ce sont des récits d'aventure dans lesquels les moines soldats doivent accomplir une mission. Pour cela commandité par une organisation. Le problème, c'est qu'ils ont perdu le sens de leur mission. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ils doivent par exemple exorciser une villa en bord de mer, ils doivent découvrir un univers prolétarien de secours, ils doivent
témoigner de l'humanité
en passant un message à une sorte de petite fille araignée dans un hôtel.
Mais envoyé comme une sorte, il est envoyé comme un tueur ordinaire
ce sont des soldats, ils ont une mission militaire à accomplir, et en même temps ce sont des moines, puisque leur mission, se situant dans les rêves, puisque ce sont en réalité des productions, ils sont envoyés par la communauté des écrivains post-exotiques enfermés en prison, donc leur mission se déroule dans le rêve, donc ils doivent utiliser des outils qui ne sont pas simplement militaires, qui sont des outils mentaux, magiques, le chamanisme, etc. Alors, tout le comique de l'affaire, puisque à la fois ce sont vraiment des récits d'aventure assez saisissants, il y a une dimension fantastique très 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 prégnante, en même temps ce sont des récits comiques parce qu'ils échouent complètement dans leur mission, ils ne savent plus dans quel rêve ils sont.
C'est qu'ils échouent comme dans la première nouvelle, n'est pas toujours comique.
Oui, c'est ce qui est comique, c'est la répétition systématique de l'échec. Mais évidemment, c'est à la fois terrible, ce sont des récits terribles.
Je trouvais que sur un temps court comme ça, les effets de suspense dans ces textes-là sont très très extraordinaires. Oui. Parce qu'en plus, c'est des effets de suspense absolument haletants, alors qu'ils travaillent c'est vraiment du minimal art, c'est-à-dire c'est de la science-fiction, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de ville somptueuse, il n'y a pas de paysage, etc. C'est vraiment minimal art. La première première nouvelle, c'est
elle est incroyable.
Villa de bord de mer. Très, en plus, ça n'a même pas l'exotisme du sale et du déglingué. C'est des petites villas de bord de mer. Au bout, voilà. Et donc, il, dans ce minimal art, il arrive à produire des effets de suspense époustouflants.
Mmh. Oui, ça c'est. Est-ce que c'est propre à Bassman? Est-ce que Volodin travaille cette.
Ah voilà, est-ce que Bassman est plus fort que Volodin?
En tout cas, il semblerait que avec ces moines soldats, il y a comme ça cette. Oui, ce sont des récits d'action. Il y a de l'action.
C'est vrai, hein.
Non, non, ce que je voulais dire, vous l'avez dit mieux, donc je vais faire bref, mais je voulais quand même qu'on comprenne que malgré la sollicitation de ce genre de construction de notre esprit critique, voire de parler de façon intellectuelle de ça, est aussi une fiction. Ce sont des livres d'aventure, ce sont des livres mm-hmm. qui méritent beaucoup plus de succès que celui qu'ils ont, parce que c'est très drôle, c'est très prenant, comme vous l'avez dit, ce sont des livres d'aventure et qu'on doit lire comme tel. C'est pas parce que derrière ils nous baladent avec des théories que ils nous baladent pas d'abord avec ces histoires et que tout le monde peut lire, même si ça s'appelle pas entre vous, ça s'appelle nouvelle, sont des nouvelles absolument formidables. Mmh. Et c'est un raconteur d'histoires avant tout. Il nous en raconte d'autres pour noyer notre poisson, mais le lecteur doit y aller nombreux et se régaler. Mmh. Et même les haïkus qui sont d'une quand on ouvre le livre, on dit qu'est-ce que c'est ça, c'est mais pas du tout. Si on peut les lire, et c'est absolument formidable.
Alors, les haïkus, on peut dire ça se passe en trois chapitres, d'abord voilà. dans une prison dont on découvre, il y a des personnages, il y a un narrateur qui est sans doute Luce Batsman, qui est d'abord en prison et puis il y a un voyage en train et il arrive dans un camp de travail qui ressemble beaucoup, je sais pas, moi j'ai pensé au carnet de la Colima de Chalamov, des choses comme ça. Je voulais lire deux, trois des haïkus, oui, parce que vous parliez de l'humour, c'est ça, c'est un humour très très particulier.
Un peu noir, un peu sombre, un peu triste. Comme l'humour doit être.
Je voulais lire, pour donner idée de ces haïkus, par exemple, les toilettes sont bouchées, le professeur s'est torché avec de l'économie politique. L'organisation s'est constituée, on se regarde en chien de faïence, il n'y a pas encore de traître. L'organisation s'est constituée, le blondinet sanglote, il ne voulait pas en faire partie. L'idiot ne cache pas sa joie, il a trouvé une blatte dans son pain. L'araignée a changé de cellule, le kirghiz lui mangeait toutes ses mouches. Le médecin nous examine à tâtons, les gardiens lui ont fracassé ses lunettes. Hier soir, un boucher tchouvache a chanté tout seul à deux voix. L'inspection sanitaire m'a demandé si j'étais content de mon sort, etc.
Il y en a, les conversations vont bon train, il paraît que les maladies vénériennes sont bonnes pour la santé.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un détournement là du genre du haïku, qui pour le coup lui est un genre bien attesté dans la littérature, pour faire jouer au haïku un autre rôle que celui qu'il joue habituellement, et en particulier pour produire un récit à toute vitesse, hein, très court, très rapide, très incisif, en trois parties, un récit implacable qui mène les prisonniers à un camp, et tout ça avec un humour. Détournement aussi de la nature poétique du haïku, puisqu'en fait c'est une poésie du barbelé.
De la légèreté des pétales de cerisier en fleurs.
Là, ça devient une poésie de. Alors, il utilise la concision du haïku pour produire des images poétiques saisissantes, sauf que ce sont des images soit d'assassinat, parfois ce sont des images, le reflet de la lune sur les murs de la prison. Puis par ailleurs, il y a un effet de composition un peu sérielle ou musicale, c'est-à-dire que certains personnages, certaines situations, certains motifs reviennent comme ça dans le récit. Donc il y a une dimension non seulement narrative, c'est un récit percutant, mais en même temps poétique.
Je pense qu'il y a une chose essentielle du haïku qui est respectée, c'est que chacun peut se...
Sûr, ouais.
Rien sur le haïku, Jean-Pierre Morel, ou quelque chose que vous vouliez terminer pour
les soldats? Sur le haïku pas spécialement, mais pour rejoindre quelque chose qui a été dit tout à l'heure, il est exact que c'est un imaginaire de l'aventure, un imaginaire de la mission. C'est pour ça que j'ai cité d'ailleurs Pligné et Danilo Kish, qui sont aussi des imaginaires de l'aventure. Ouais. Et ce grand imaginaire occidental de la mission, et en particulier de la mission révolutionnaire, qui est toujours une histoire de défaite, de piège ou de destruction ou d'autodestruction.
Les soldats perdus.
Que ce soit par les voies de l'intoxication policière, des voix plus mystérieuses de la magie ou du chamanisme, puisque d'ailleurs un certain nombre de ces personnages sont des militants à l'ancienne et résistent de façon assez rationaliste à l'emprise de la magie. Et puis on voit qu'à d'autres moments ils y succombent entièrement.
Est-ce que c'est pas le propre de la Révolution d'être assassiné?
C'est une bonne question. Et elle a déjà été posée maintes fois.
Voilà, Lutz Bassmann avec les moines soldats et Haïku de prison qui sont tous les deux publiés aux éditions Verdier dans la collection Kawid. Benjamin Jordan, une vie littéraire. Il y a eu déjà plusieurs livres consacrés aux œuvres d'un écrivain qui s'appelle Benjamin Jordan. Il y a eu L'apprentissage du roman de Benjamin Jordan en 93, et puis Présence de Jordan et Jordan revisité plus tard aux éditions Champvallon, deux livres dont vous dites n'être que l'éditeur. Et votre lecteur, Jean-Benoît Puech, comprend très vite que c'est... D'ailleurs, c'est à la fois caché et exhibé, en fait, que il s'agit d'un écrivain fictif et surtout d'une œuvre fictive. Et ce qu'on comprend très vite, c'est que votre œuvre, c'est la vie littéraire, avec toute l'ambiguïté de cette expression, de Benjamin Jordan.
Oui.
Vous seriez d'accord avec cette définition ?
Oui. Oui et non.
C'est un passage aux aveux un peu brutal.
Oui. Oui, comme tout à l'heure, on disait que Volodine n'a jamais cherché à construire une mystification littéraire. De même, si je puis me comparer dans ce domaine, je n'ai pas non plus du tout mis en place un système qui laisse croire à l'existence d'un réel de Benjamin Jordan. Je crois que dès le début, je me suis mis en scène également, non seulement comme ami et éditeur de Benjamin Jordan, mais aussi comme inventeur de la fiction Benjamin Jordan. Donc il ne s'agissait pas du tout de faire croire à l'existence de ce personnage. Il n'en reste pas moins que ce dernier livre, même dans sa quatrième de couverture, ne laisse pas, j'espère, apparaître qu'il s'agit d'une invention. Je le donne, le Prière d'inséré le donne comme un recueil d'hommages à Benjamin Jordan. Et il n'est pas dit qu'il s'agit d'une parodie d'hommage à un écrivain, mais le donne comme un hommage à un écrivain. Et je vous remercie de l'avoir présenté comme étant le numéro 1 des cahiers Benjamin Jordan. Il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur du livre, je crois qu'il y a un certain nombre d'indices qui montrent que j'ai tout inventé. Et pas d'un premier abord.
Pour tout dire, j'étais curieuse au fond de savoir comment vous répondriez à mes questions, c'est-à-dire quel jeu vous alliez jouer en venant ici, puisque vous auriez pu, puisque c'est votre, c'est le principe de votre volume, qui est un volume apparemment collectif, avec des tas d'hétéronymes,
mais là encore,
pour présenter et analyser l'œuvre de Jordan. Donc vous auriez pu choisir au fond de dire, mais non, pas du tout, j'ai découvert un écrivain que je commente.
Oui, ça m'arrive, mais je ne peux pas toujours jouer le même jeu.
Et oui.
Non, ça m'arrive de me présenter comme étant un universitaire qui a découvert une œuvre peu méconnue et qui a surtout publié des posthumes, cet écrivain. Et puis qui l'a rencontré, mais qui n'a...
Ah, il n'a d'existence que posthume.
Non, pas d'existence que posthume, mais l'éditeur, en tant qu'éditeur, je me suis essentiellement consacré au posthume.
D'accord.
Mais donc il m'arrive de jouer ce jeu, mais pas tous les jours, enfin... Et ici et maintenant, en tout cas, comme ailleurs aussi, je préfère dire que j'ai tout inventé.
D'accord.
Mais je voudrais ajouter, alors, pour ce qui est notamment de celui-ci, il s'apparente à ce que David a dit tout à l'heure de la pluralité des auteurs. chez Volodine. C'est-à-dire qu'il y a là vraiment un passage de ce qui était un peu monothéiste dans les livres précédents, où il n'y en avait que pour Jordan, à une sorte de polythéisme, qui est aussi celui de Psoa, par exemple, où on trouve effectivement cette équivalence dans la multiplicité des auteurs de sa foi. De sa foi religieuse dans le polythéisme.
C'est-à-dire que là, vous augmentez votre groupe de spécialistes, d'analystes, d'historiens, d'éditeurs, c'est ça, qui tous ont intérêt, envie, sont passionnés par l'œuvre de Jordan.
C'est ça, il y a même une multiplication des introductions. Des éditeurs. D'accord. L'étage au-dessus, ou bien le sous-sol le plus profond, ça n'est plus la multiplication des auteurs, c'est l'hétéronymie éditoriale. C'est la multiplication de la liste des éditeurs. Donc il y a là une sorte un effet de morcellement de la personne que j'ai retrouvé. Moi, je me sens j'ai beaucoup d'admiration et je me sens beaucoup d'affinité avec pour le travail de Volodine. Pas vraiment dans son
là,
contenu.
Vous m'étonnez.
Non, pour la construction. Je pense que si vous avez invité en même temps, c'est certainement parce qu'il y a des points communs dans ce domaine cette espèce d'effondrement d'identité dont vous parliez très bien tout à l'heure, et de multiplication des voix narratives avec une incarnation de chacune de ces voix plus ou moins volumineuse, je dirais.
Et donc ce volume fait alterner des textes de Jordan, lui qui écrit lui-même quelquefois sous pseudonyme,
sous hétéronyme.
Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous diriez, mais qui transpose des situations de sa vie qui sont peut-être des situations de la vôtre, dans des fictions, qui compliquent un peu la situation, puisque vous êtes l'auteur d'un auteur qui est Benjamin Jordan, mais vous lui donnez des pseudonymes qui du coup deviennent des pseudonymes de pseudonymes.
C'est-à-dire que Jordan lui-même, j'ai découvert en tant que je me présente comme son éditeur, ou à moins que ce soit un autre. Mais il est le même, comme dit l'autre. Et un éditeur a découvert que Benjamin Jordan avait lui-même inventé.
Oui,
ça c'est le rival de Jean-Benoît.
Ils ne s'entendent pas très bien
dans la publication. Non, ils ne s'entendent pas très bien. Puis alors, je pense qu'avec mon collaborateur, les choses vont se gâter également. Mais un des éditeurs a découvert que Jordan avait lui-même voulu réaliser une parodie de numéro d'hommage qui aurait été consacré à Vincent Vallière. Ce qui me permet en même temps évidemment de dire à travers mon commentaire du travail de Jordan ce que je cherche à faire avec ma propre édition de ses travaux. Mais ce que je voudrais revenir surtout sur ce que j'ai dit pour commencer, à savoir que tout ça pour moi est un peu une procédure de diversion. C'est-à-dire que c'est un peu comme un précipitateur qui agite dans sa main droite un grelot pour attirer l'attention pendant que l'essentiel se passe dans sa main gauche. Et l'idée que je me fais de tout ce qui m'arrive là, c'est plutôt que l'essentiel n'est pas là. Dans ce qui est de l'ordre du jeu hétéronymique qui n'est jamais pour qu'une performance dans un genre que j'aime beaucoup. Mais rien qu'un jeu fait pour ne révéler l'enjeu qu'à ce que j'aime, comme dit l'autre. Et ce que j'aime j'aimerais qu'il soit plus attentif à ce qui est de l'ordre de, pour reprendre un terme que vous avez employé tout à l'heure, de la transposition de la vie de Jordan lui-même. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans toute cette histoire, ça n'est pas l'invention de Jordan, des éditeurs de Jordan, ça n'est pas tout ça c'est... Oui, ce sont des formes, ce sont des formes de politesse pour un lecteur qui est un peu au parfum. Mais pour moi l'essentiel c'est le travail de Jordan, le travail de transposition, voilà le terme que vous avez employé tout à l'heure, le travail de transposition de Jordan, de sa vie, de ce qui dans sa vie lui échappe, la tentative de maîtriser ce qui lui échappe dans sa vie. Alors, c'est pourquoi la plupart des travaux qui constituent ce livre, qui sont soit des travaux de Jordan lui-même, soit des études sur les travaux de Jordan par des universitaires ou d'autres écrivains, la plupart de ces travaux concernent le travail de transposition par Jordan, avec des enquêtes donc sur sa...
De ses relations avec un grand écrivain qui s'appelle Delancourt.
De ses relations avec un grand écrivain qui s'appelle Delancourt, de ses relations avec un grand universitaire qui s'appelle Lestrade, qui ont été en somme ses deux parrains, l'un dans le monde de la fiction, qui est plutôt pour moi celui de l'aventure intellectuelle, et l'autre dans le monde de l'essai, disons. qui est également un monde plutôt aventureux, à mon sens. Et puis l'autre, donc, dans le monde de la réflexion plus théorique, Lestrade, qui était son professeur à l'école des hautes études. Alors, donc il y a d'une part une enquête sur sur sa vie, et d'autre part une tentative de compréhension de la manière dont toute sa vie a été par lui transformée en fiction.
D'accord. Jean-Pierre Morel.
Moi, j'ai été particulièrement touché, au-delà de la présentation sous forme d'un ouvrage collectif à plusieurs collaborateurs sur un écrivain, par deux voies que votre texte ouvre et qui sont assez divergentes. La première, selon laquelle, me semble-t-il, le nom de Jordan serait là pour renvoyer à quelque chose de plus vaste, qui serait, vous le dites très tôt dès la page 9, qui serait l'écriture, ou page 118, qui serait la fiction perpétuelle. Le nom de Jordan, ce serait, disons, le viatique, le nom et l'œuvre de Jordan, serait le viatique qui permettrait d'entrer dans ce que vous appelez la pluralité des mondes personnels. Ce serait la première piste. La deuxième piste, ce serait, et c'est fascinant tout au long du texte, c'est une sorte de parti pris, selon lequel, pour le redire dans vos mots, nous qui sommes plus, ce qu'on pourrait appeler la préférence inversée, nous qui sommes plus attachés à l'auteur qu'à l'œuvre, plus à l'homme qu'à l'auteur, et plus à la représentation que cet homme se fait de lui-même qu'à son état civil. Là, il me paraît que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui va assez fort contre les usages qui tendent à disjoindre l'auteur de l'œuvre et finalement à accorder le plus d'intérêt au second des termes de cette relation. Et puis il y a une troisième chose qui m'intrigue beaucoup et sur laquelle j'aimerais vous poser une question, c'est que quand on regarde les textes de Jordan lui-même dont vous faites état, les trois récits
Qu'est-ce
qui se passe à l'époque de la résistance et du régime de Vichy. Ensuite, cette pièce écrite pour le théâtre de carton. Et je note au passage la précision avec laquelle vous faites la différence entre le castelet de marionnettes et le théâtre de carton, allant jusqu'à corriger un passage de la traduction des Buddenbrook de Thomas Mann, oui, par Geneviève Bianchis. Et enfin, dans la fiction berlinoise, la fiction du merveilleux scientifique qui oppose deux professeurs très savants. Il y a constamment une thématique qui apparaît, qui est celle du vol, dans lequel le voleur est plus ou moins inconscient de ce qu'il fait et travaille peut-être à son insu pour d'autres, pour des gens qui, par exemple, se servent de lui pour faire un trafic d'œuvres d'art sous l'occupation. Et votre texte, évidemment, cette référence va de soi et doit sans doute vous agacer, rappelle, entre autres, mais pour d'autres raisons, le fameux roman de Nabokov, Feu pâle, mais non pas à cause du dispositif lui-même, l'écrivain imaginaire et son commentateur imaginaire, mais par le fait qu'à un moment donné, recourant à une mauvaise citation de Timon d'Athènes, le personnage dit « Je vais vous illustrer le vol ». J'aimerais que vous...
Non, ça m'agace pas, ça m'honore, mais je suis surtout sensible au fait que vous vous attachez bien davantage au contenu qu'à la forme. Puisque j'adore,
ça doit être un défaut,
ouais. J'adore cette différence, j'aime beaucoup les différences, et tout particulièrement celle-là.
C'est la deuxième fois que je commets ce péché, je promets.
Oui. Oui, mais de nouveau, nous s'éloignons un peu de la question de la façon dont Jordan s'efforce de transformer en fiction sa vie immédiate. Et de la façon dont il essaie de transformer en fiction sa capacité de fabulation immédiate. Donc je ne réponds pas à votre tout à fait à votre question, mais je me sens un peu obligé de parler à côté, aussi bien concernant l'hétéronymie que concernant ce commentaire qui me touche tout de même, parce qu'encore une fois, il va vers un enjeu que j'estime plus grave que celui des jeux.
Mais ce qui est au cœur aussi de vos textes, qui est, je pense, mystérieux pour des gens qui ne sauraient pas ou qui n'auraient pas lu les textes qui précèdent, les premiers livres de Jordan, etc., sont les relations de Jordan avec un écrivain qu'il appelle
De Lancour,
qui est sans doute... Donc, pour reprendre ce mot que vous utilisez, la transposition des relations que Jean-Benoît Peuch a eues avec Louis-René Desforêts, et qu'au fond, la grande présence littéraire de ce livre, c'est Louis-René Desforêts, une sorte de dialogue, avec, c'est-à-dire aussi avec Blanchot. Et donc, il y a au cœur de cette construction hétéronymique, de cette identité fictive, une sorte de, comment dire ça, de définition de ce que vous entendez par la littérature, d'évolution de ce que vous entendez par... Il y a un très beau texte sur Blanchot à la fin que j'ai trouvé très beau, parce que vous défendez Blanchot contre Blanchot, c'est-à-dire vous faites un autre Blanchot contre le Blanchot mortifère et voilà. Je vais trop vite parce que...
Nous inventons tous les auteurs dont nous parlons, même lorsqu'ils ne sont pas imaginaires.
Oui.
Mais à propos de Delancourt et de Desforêts, je voudrais faire allusion à une conversation qui a eu lieu ici il y a quelques années à propos de mon livre précédent, où il était très justement dit que je ne faisais pas dans l'autobiographie au premier degré, parce que Desforêts m'avait défendu de le faire. Et je me souviens que vous aviez pris mon parti en disant qu'après tout, c'était une chance pour moi.
C'était une émission où on avait parlé de votre livre en votre absence, hein, c'est ça. Ouais.
Et vous disiez que c'était une chance pour moi qui m'ait défendu de faire de l'autobiographie au premier degré, et c'est, je crois, très juste. Et on peut relier ça à la question de la transposition. C'est-à-dire que si on ne m'avait pas défendu de parler de moi, je n'écrirais pas de fiction. Et je crois que je suis bien plus moi-même à travers les fictions que j'écris que dans une autobiographie au premier degré. Voilà, je ne fais que répéter ce que vous aviez dit et qui m'avait beaucoup touché. Donc, maintenant, mis à part ce nom du père, alors là, nom N-O-N, hein, je pense que le nom de Delancourt, N-O-M, n'est pas plus important que celui de Blanchot, et certainement l'un comme l'autre, infiniment moins important que deux ou trois autres personnages.
C'est important pour comprendre votre représentation, votre croyance littéraire, votre
non, ce qui concerne
conviction de ce qu'est la littérature, de ce qu'est le silence, de votre évolution vis-à-vis de ces choses.
Oui, mais celles de Jordan sont beaucoup plus la question de la relation avec son père, la question de la relation avec son frère, qui sont beaucoup moins célèbres, bien entendu, mais qui sont pour lui infiniment plus essentiel. Là, et pour moi, qui suis son éditeur depuis pas mal d'années, je m'aperçois peu à peu que la question du père, ça change. Ben oui, parce que d'une journée sur l'autre, d'une heure sur l'autre, d'une phrase sur l'autre, on ne sait pas pourquoi.
Allez-y, pardon, je vous ai interrompu.
Mais la relation à son père était très importante, la relation à sa mère aussi d'ailleurs, c'est-à-dire à deux milieux sociaux très différents. Et là encore, je me sens aussi des affinités avec Volodine pour... Alors c'est à cette fois, pour dire le contraire de ce que je disais tout à l'heure, je me sens affiné sur le contenu, parce qu'il y a un contenu idéologique, je crois, une sorte de lutte des classes dans la famille de Jordan, qui m'importe alors pour moi.
Vous faites au début une auto-socio-analyse très amusante sur la noblesse,
oui, moi,
sur la petite noblesse, la grande, la noblesse du cœur et la noblesse du nom. Oui. Et quand on se souvient que Desforêts est sans doute, et peut-être vous avez vous-même une généalogie liée à la noblesse, je ne sais pas.
Oui,
mais c'est une auto-socio-analyse très très étonnante. Hein.
Oui, je crois que ce domaine social, disons, ou de psychosociologie, est peut-être plus important pour Jordan. Pas forcément pour moi qui ai une formation évidemment de... Enfin, qui sait la différence entre texte et paratexte, ça, mais je crois que ce sont des choses qui sont absolument indifférentes à Jordan. La vraie question de Jordan, c'est comment se fait-il que une jeune femme de l'aristocratie de province ait épousé un homme qui a grandi les pieds nus dans les sabots, et ça, pour lui, c'est quelque chose de très douloureux. Cette différence de milieu social, de milieu géographique de ses parents, c'est un grand écart qu'il a dû faire toute sa vie et qui, à mon sens, est plus générateur, comme on disait quand j'étais adolescent, parce que le temps a passé.
Jean-Baptiste Aron.
Je voudrais, après, je le dis maintenant pour ne pas oublier, que vous nous disiez un mot des photos qui sont dans le livre et qui sont là en matière de preuves.
Il y a un très beau cahier photo, voilà. Oui.
Mais l'investissement du paratexte. comme on disait tout à l'heure.
C'est une autre question que mon ignorance me permet peut-être de vous poser. Vous vous situez comme l'éditeur de Jordan, et donc c'est le travail d'un éditeur comme admiratif de son travail, le jugeant digne d'être publié, puisque vous vous proposez vous-même de le publier. Et quand vous écrivez, vous, les œuvres de Jordan, vous avez le devoir d'écrire quelque chose que l'éditeur va admirer. Et comment vous vous sortez de ce piège un peu narcissique ?
Enfin, il y a plusieurs choses, parce que il y a à la fois la question du cahier iconographique et la question de ma relation à Jordan.
C'est deux questions différentes, mais j'avais peur d'oublier la seconde, je posais les deux en rafale.
La première est plus amusante, à savoir le cahier iconographique, mais même dans son rapport à mon travail d'éditeur, c'est-à-dire que je dois, et je peux même le remercier ici, je dois à Maître Marcilly, qui est donc l'ayant droit de Jordan, qui est notaire à Fontainebleau, la possibilité d'avoir publié cette iconographie.
C'est précisé.
Alors maintenant, pour sortir du jeu et non pas entrer dans la question...
On peut dire donc qu'il y a deux photos de Jordan, dont l'une dans le noir, en gros. Un clair obscur, je vous remercie, c'est ça. Et l'autre, les yeux baissés derrière un bouquet de fleurs, ce qui fait que... Ce serait difficile de le reconnaître.
Oui, il y a un portrait par le Tan. Ça commence par un portrait par le Tan où il est vraiment, alors là, en pleine lumière.
C'est vrai.
Même si c'est une aquarelle, quand même, avec des tons d'une grande tendresse, je trouve. Ben voilà pour l'iconographie. Il y a aussi les femmes que Jordan a aimées, en tout cas deux d'entre elles, puisqu'il y a une troisième qui n'apparaît pas et qui est d'un tout autre monde, qui est plutôt le monde de son père. Parce que là encore, la question sociale se pose pour moi, et surtout pour lui, de façon plus essentielle que la question formelle. Et puis alors, pour ce qui est de la question de la deuxième partie de la question, elle est encore plus compliquée que ce que j'ai l'habitude de dire, alors je suis un peu perdu. C'était
la question... Chevillard a écrit un livre comme ça qui s'appelle Les œuvres posthumes de Thomas Pilaster.
Oui, voilà, encore donné un exemple.
Où l'ami qui est censé publier les œuvres posthumes dit des vacheries.
Elles sont terribles, extrêmement nombreuses. Alors oui, tout de même, je peux dire que pour mettre un bémol finalement à la géographie, qui est le danger de ce livre, puisqu'effectivement il s'agit d'un numéro d'hommage. Par conséquent, en principe, dans les années qui suivent la mort de quelqu'un, il serait quand même pas poli, il serait très malvenu de publier un texte diffamatoire ou même
il est mort depuis 13 ans,
un texte dépréciatif. Ouais. Oui, mais regardez l'éternité, c'est vraiment pas grand chose. Alors, donc là, le danger, c'était celui de la géographie, mais puisque je voulais essentiellement montrer qu'un auteur, c'est pas seulement le sujet d'une œuvre, mais aussi l'objet d'un certain nombre de discours qu'on tient sur lui, et que j'avais choisi les premiers dans l'histoire de l'œuvre, j'étais obligé de faire une géographie. Alors, finalement, les dissentiments se font entre les différents collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même approche, qu'il y a des gens qui font une approche qui est plutôt une approche biographique, ou bien des personnes qui font des approches formelles, et il y a une lutte, un conflit, des rivalités dans leurs différents Jordan. Et
puis ils ont des gros égos, vos éditeurs.
Oui, mais vous êtes fâché à mort avec Stéphane Prager.
Vous êtes fâché à mort, ça c'est vrai.
Nous sommes fâchés. Et encore une fois, nous allons probablement nous brouiller, Savigny et moi-même, si je prépare une biographie avec laquelle je ne suis pas tout d'accord.
Ça vous permet de ne jamais prendre de position de maîtrise,
sans doute.
De dégagement,
sans doute.
D'extériorité par rapport à tout ça.
Peut-être.
Avec les moines soldats, recueil d'entre vous, des haïkus de prison de Lutz Bassmann, édition Verdier collection Kaoïd, et de Benjamin Jordan, une vie littéraire, publiée sous la direction de Jean-Benoît Puech et Yves Savigny aux éditions Champvallon dans la collection Cahier Benjamin Jordan. Et je voulais signaler dans cette même veine le très bon dernier roman de Éric Faye, L'homme sans empreinte, aux éditions Stock, écrit à partir de la vie du fameux et mystérieux Beethoven, que vous citez, je crois, Benjamin Jordan. Je vous appelle Jordan, c'est très bien. Voilà, c'est tout. Le livre s'appelle L'homme sans empreinte et il est publié aux éditions Stock.